Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue et dans notre étude, voilà, on reprend après Pessah notre étude sur la Tefila. Ça marche, ça marche pas? C'est bon? Tout le monde m'entend? Ouais? Ceux qui arrivent à me faire un signe, faites-moi un signe. Oh, ça devrait être bon. Oui, oui, non, 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 oui. C'est bon, ça rame, ça rame. Ça rame, c'est pas bien ça. De mon point de vue, ça rame pas trop, donc c'est pas trop mal. Oui, shalom. Alors c'est bon. On va dire que shalom, ça veut dire c'est bon. Alors allons-y. C'est très bon, c'est bon, super. Bon, bah alors on y va. C'est parti. Donc on vient dans notre étude de la Tefila. On est bientôt à la fin des brachot de la Shemoneh Esrei. Et donc, nous sommes arrivés à la bracha de Bonne Yerushalayim. Birkat Bonne Yerushalayim. Après avoir parlé des tzadikim, on avait expliqué le danger que les tzadikim pouvaient ressentir à l'époque de la Géoula. Et bien maintenant, on se concentre sur la Malchut. Malchut Ira Melucha Yerushalayim. Yerushalayim. Alors, c'est parti. Là aussi, il y a des toutes petites différences au niveau des Nusraot. Vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. On y va. Chez les Edot HaMizrach, on commence en disant « Tishkon betor Yerushalayim irra ka'asher dibarta ». C'est-à-dire que dans la Nusar de Edot HaMizrach, l'objectif, c'est la Shrina d'Akadosh Baruch Hu à Jérusalem. Dans le Nusar Sfard et dans le Nusar des Ashkenazim, eh bien, on va commencer avant. C'est-à-dire que le petit shkol, il va arriver après. Mais on va commencer avec la première étape. Et la première étape nous dit « Velirushalayim ircha berachamim tashuv ». Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, « Velirushalayim ircha baro ». Yerushalayim, c'est à « ir shelcha ». Yerushalayim, c'est lo sheli. Yerushalayim, c'est la Kadosh Baruch. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans la Chalouka, dans la tombe, dans la partie qui appartient à Binyamin. Mais concrètement, Jérusalem n'appartient ni à Yehuda, ni à Binyamin. La ville appartient à personne. Dans les faits, c'est vrai que c'est sur le territoire de Binyamin, mais concrètement, Binyamin ne vont même pas réussir à conquérir la ville. Et effectivement, depuis Yehoshua jusqu'au roi David, eh bien, la ville restera non conquise, restera entre les mains des Cananéens, des Yévoussim, des Jébuséens, pour être exact. Bah, résultat des courses, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le premier acte de David, en tant que roi d'Israël, en tant que chef des tribus réunies, on parlera de David dans la prochaine bracha, mais David va, première action générale, venir conquérir Jérusalem. Et il le fait pourquoi? Eh bien parce que comme cette ville n'appartient à personne, eh bien elle pourra appartenir à tout le monde. Yerushalayim, ze ircha, ze lo irenu, ze lo ha'ir sheli. C'est pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour faire l'union des tribus. Et donc, puisque c'est ta ville, bah, c'est tout ton intérêt d'y revenir. Donc, Velirushalayim ircha tashuv. Ken, mais on ne se contente pas de dire tashuv, reviens dans ta Jérusalem, mais on dit Velirushalayim ircha berachamim tashuv. Eh oui, pourquoi berachamim? Eh bien, parce qu'on ne veut pas que ce soit bedin. On ne veut pas que ce soit caché. On veut que tu reviennes. Berachamim. Parce qu'on sait à quel point, dans la mesure où Zéchelcha, eh bien, tu pourrais ne pas faire de cheshbon, comme on dit. Tu pourrais rentrer en claquant les portes. Mais on ne veut pas ça. Nous, on veut que les combats pour Jérusalem soient berachamim. Dans les faits, le combat de David pour Jérusalem a été un coup d'éclair, une blitzkrieg, comme on dit en arabe. Le combat de David la prise de Jérusalem dans le Tanakh va durer combien de temps ? Jérusalem, la ville tellement fortifiée qui va résister aux assauts des Juifs pendant près de 350 ans. Entre l'entrée de Yehoshua et David, personne ne va réussir à prendre la ville. Des murailles infranchissables, une situation très compliquée. Et finalement, eh bien, la ville de Jérusalem, la prise de la ville, cinq mots dans la Tanakh. Vayikach, David, et Metsuda Tzion. Finito. Ça a été très rapide. Ben, il en va de même dans notre génération. On aurait pu penser que les combats de Jérusalem auraient été les combats les plus grands, les plus durs, les plus trucs. Combien la guerre de Jérusalem, si on peut l'appeler comme ça, a-t-elle duré ? Ben, 6 jours. 6 jours dans laquelle Jérusalem, il y a un décalage entre le son et l'image. Je ne sais pas quoi vous dire. Ben, ne me regardez pas, de toute façon, je ne suis pas très beau. Donc, la guerre des 6 jours, elle n'a duré que 6 jours. Donc déjà là, ça pourrait faire un contact. Mais en vrai, la guerre de Jérusalem, elle a duré une journée. Je veux dire, les combats qui ont été tellement durs en 1948, et on n'a pas réussi à prendre Jérusalem en 1948. Rappelez-vous, il y a eu 3 tentatives pour conquérir la vieille ville de Jérusalem en 1948. Les 3 tentatives ont échoué. Ont échoué. En 1967, tchic-tchac, on a réussi à prendre Jérusalem. Je vais vous dire quelle est la différence entre 1948 et 1967, qui revient directement dans notre fila. En 1948, il y a eu 3 tentatives pour prendre la ville. Une tentative menée par la Haganah, une tentative menée par le Hetzel et une tentative menée par le Lehi. C'est-à-dire les 3 groupes armés juifs qui n'étaient pas unis, qui se détestaient d'ailleurs les uns les autres. Quand tu n'es pas uni, tu ne peux pas prendre Jérusalem. On a dit, David, la première chose qu'il fait pour prendre Jérusalem, c'est réunir toutes les tribus. En 1967, il y a, pour la première fois de l'histoire, et pour l'instant pour la seule fois, puisque bien que nous ayons un gouvernement depuis quelques heures, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. C'est un gouvernement élargi avec Carole Lavan. Pour la première fois et seule fois pour l'instant de son histoire, eh bien, à la veille de la guerre des 6 jours, il y a eu un gouvernement d'union nationale en Israël. On était unis. Alors, peut-être seulement pour l'objectif de la guerre, mais unis quand même. En d'autres termes, eh bien, les combats ont été extrêmement rapides. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que ça ne faisait pas partie du programme de conquérir Jérusalem, de conquérir la vieille ville. Ce n'est que lorsque Motagour, le chef des parachutistes, et Moshe Dayan, après le combat de Givat HaTachmoshet, qui n'avait pas pour objectif de prendre la vieille ville, mais qui avait pour objectif de faire en sorte de couper aux Jordaniens la possibilité de nous battre. Ils arrivent sur le mont des Oliviers, à l'endroit où il y a aujourd'hui l'autel qui s'appelle les 7 arches, à l'époque ça s'appelait l'Intercontinental, et ils voient au lever du soleil le mont du Temple qui les attend. Et à ce moment-là, dans une discussion qui va durer 2 minutes, ils vont dire, bon, on y va. Et on y va. Et on va conquérir Jérusalem. Et à la fin de l'après-midi, eh bien, on entendra dans la radio, le mont du Temple est entre nos mains. En d'autres termes, on veut que ce soit rapide. On veut que Kadosh Baruch Hu nous aide à le faire, Berachamim. Donc, Vilirushalayim ircha, parce que c'est à toi la ville, Berachamim tashuv. Alors, une fois que tu es rentré, Vetishkon betocha ka'asher dibarta. Comprenez-moi bien, cette bracha de Yerushalayim ne parle pas encore du Mikdash. On parlera du Mikdash dans Retzé. Donc pour l'instant, on ne parle pas du Mikdash. Donc qu'est-ce que ça veut dire le Tishkon Betocha et réside au sein de Jérusalem? Eh bien, c'est bien ce que ça veut dire. Réside au sein de Jérusalem. Il y a un statut spécifique à Jérusalem hors Bet HaMikdash. Pendant 2000 ans, et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait réfléchir. Mais pendant 2000 ans, on n'a pas véritablement pleuré la destruction du Beth Amikdash comme on a pleuré la destruction de Jérusalem. Eh oui. Les takanot de Rabban Yochanan ben Zakkai en souvenir du Khurban qu'on fait jusqu'à aujourd'hui ne sont pas en souvenir du Khurban Beit HaMikdash mais sont en souvenir du Khurban de Jérusalem. Ces takanot, par exemple, de laisser un mur, une partie du mur non terminé quand tu fais une maison, c'est en souvenir de la destruction de Jérusalem. Lorsque moi, on m'a mis de la cendre sur le front sous ma choupa, c'était pour se rappeler de la destruction de Jérusalem. Lorsque j'ai cassé le verre à ma choupa, j'ai dit « Imeshkacher Yerushalayim » et non pas citer un verset qui me rappelle le Beit HaMikdash. En d'autres termes, il y a Beit HaMikdash, mais il y a d'abord et avant tout une autre situation qui est précédente du Beit HaMikdash. Évidemment, on ne peut pas être au Beit HaMikdash si on n'est pas à Jérusalem, bien sûr. Mais donc, il faut d'abord comprendre que la dimension de Jérusalem est une dimension fondamentale. Puisque c'est la dimension d'unité du peuple juif. C'est ce qui amènera un David Ben-Gurion dire cette phrase. Il peut y avoir une Jérusalem sans État d'Israël, mais il ne peut pas y avoir d'État d'Israël sans Jérusalem. C'est où ? C'est Jérusalem. Donc, Vetishkon betocha ka'asher dibarda. Et oui, tu nous l'as promis. Tu nous as promis que tu allais résider à Jérusalem. Matai, dans le Tanakh. Le Tanakh est plein de névoot où Dieu nous parle, au travers des prophètes, de sa volonté de régner à Jérusalem, car c'est de cela qu'on parle. Jérusalem, Zeir Amelucha. C'est-à-dire, quelle est la dimension qu'on demande lorsqu'on demande Jérusalem? On demande Chazarat à Malchut. Mais quelle Malchut? Eh bien, c'est ça toute la question. Vetishkon betocha ka'asher dibarta. Uvne ota bekarov beyamenu binyan olam. On veut demander à Dieu qu'il nous aide à la construire Bekarov, Beyamenu, Binyanolam. Bekarov, pour ceux qui écrivent la Tefila, on comprend. Jérusalem est détruite à leur époque. Beyamenu, c'est pour nous. Vous avez déjà, bon là c'est pas en ce moment parce qu'il y a le corona, mais quand il n'y a pas le corona, vous avez déjà été pris dans des embouteillages à Jérusalem parce qu'on est tout le temps en train de construire quelque chose? Nounou, Binyan Olam. Olam, ça veut dire d'éternité. Binyan Olam, ça veut dire que c'est une Jérusalem qui ne doit plus être détruite. Alors, on peut dire que ça, c'est ce qu'essaye de réaliser Tama 38, ou Pinouï Binouï, de renforcer les maisons de Jérusalem qu'elles ne s'effondrent jamais. Yecholiot, c'est possible que ça fasse référence à cela, mais ça veut tout simplement dire que Binyan Olam, Jérusalem a été détruite et redétruite et redétruite et redétruite et redétruite. Quand vous voulez comprendre un tout petit peu l'archéologie, je ne sais pas si vous avez déjà été au Minarot à Kotel. Alors, celles qui ont été au Minarot à Kotel, Kol HaKavod, celles qui n'y ont pas été, Alay, que lorsqu'on a terminé le Corona, on organise un petit tioul Minarot à Kotel. Oui, parce que faut bien que j'utilise mon autre casquette de guide, pas que la casquette de rabbin. Donc, entre parenthèses, si vous avez tout été au Minarot à côté et que vous voulez faire un autre tioul, on fera un autre tioul, hein, c'est vous les patrons. Hein. Mais en tout cas, au Minarot à côté, on comprend très bien une chose. On comprend très bien, et c'est ce que j'explique à tous mes groupes quand je vais là-bas, que Jérusalem est construit comme un hamburger. Oui, oh, et la comparaison est extraordinaire. Jérusalem, c'est un burger. C'est-à-dire que tu peux voir là-bas très bien les couches successives. De génération en génération, Jérusalem a été construite, détruite, ensevelie, reconstruite plus haut. Détruite, ensevelie, reconstruite plus haut. Détruite, ensevelie, hein. Et donc, tu peux voir là-bas véritablement toutes les couches. La viande, les oignons, le ketchup, tout ce que tu veux, pour arriver à la couche de pain de base, qui est la roche de Har HaMoria, et ben, nous aujourd'hui. Donc, si vous voulez, Jérusalem a été détruite, reconstruite. L'objectif, c'est d'arriver à un Jérusalem qui est Binyan Olam. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et donc, mais tout ça, ça doit servir à quoi? Vechise David avdecha mehera letochat achim. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qui c'est David. C'est-à-dire à Malchut. Vous allez me dire, la Malchut peut s'exprimer à Tel Aviv. Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut tout à fait créer un État souverain avec pour capitale Tel Aviv. C'est ce que certains livres d'histoire en France, manuels scolaires, révisionnistes, essayent de dire, que la capitale d'Israël, c'est Tel Aviv. Non. Alors, on peut dire que c'est la capitale économique, la capitale des start-up, mais la capitale du pays, c'est Jérusalem. Shavlama. Pourquoi est-ce qu'il a fallu, et les fondateurs de l'État l'ont très bien compris, pourquoi la capitale, c'était Jérusalem? Ils ont voulu que ce soit Jérusalem et pas Tel Aviv. Alors qu'au niveau stratégique, au niveau de facilité de relations et tout ça, ça aurait été peut-être plus intelligent de faire Tel Aviv. Mais pour une raison très simple. Si la capitale d'Israël, c'était Tel Aviv, alors ça veut dire que l'État d'Israël est un nouveau pays occidental au Moyen-Orient, qui est né en même temps que Tel Aviv, en 1909. Mais si la capitale de l'État d'Israël, c'est Jérusalem, c'est que l'État d'Israël de 1948 est né qu'en fait le prolongement d'un autre royaume qui s'appelait Israël et qui avait pour capitale également Jérusalem. Et ça nous ramène à l'époque de David et Shlomo. En d'autres termes, Vechise David Mehera Letocha Tachin. Prépare qui c'est David. Alors, je vous ai refait venir dans l'histoire avec la capitale du temps du roi David. Mais qu'est-ce que ça veut dire qui c'est David? Que David en soit le roi. Bon, évidemment, vous comprenez bien qu'on n'attend pas que le roi David revienne. Enfin, il va revenir, mais c'est pas ça qu'on attend. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Pas attend seulement, mais qu'est-ce qu'on entend par de qui c'est David Mehera Letochat Tachin? Eh bien, on parle ici de Mashiach ben David. Le seul problème, c'est que Mashiach ben David sera traité dans la bracha d'après. Eh oui, donc là, on ne parle pas encore de Mashiach ben David. Donc, de qui parlons-nous quand on dit Tachin, prépare la qui c'est David, si on ne parle pas de Mashiach ben David? Eh bien, je vous le donne en mille, on parle d'un autre Mashiach qui s'appelle Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est le préparateur au Mashiach ben David. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est qui ce Mashiach ben Yosef? Eh bien, sans suspense, aujourd'hui, on sait qui c'est Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, en 1904, un grand personnage du judaïsme moderne et du judaïsme bichlal va mourir à 44 ans. Le grand rabbin de Eretz Israël va faire un esped, un éloge funèbre. Ce rabbin s'appelle le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kouk. Et lorsque le Rav Kouk fait le esped de Herzl, dans un texte qui va s'appeler les Yamim, Misped l'Irushalayim, eh bien, il va tout simplement appeler Herzl Mashiach ben Yosef. Mais à la différence du roi David, Mashiach ben David, qui est un bonhomme, Mashiach ben Yosef, ce n'est pas que Herzl. Mashiach ben Yosef, c'est tout ce que Herzl représente. En français, Mashiach ben Yosef, c'est le sionisme laïque. Le sionisme laïque, c'est Mashiach ben Yosef. Tout à fait. Ni plus, ni moins. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire quelque chose de fondamental. Mashiach ben Yosef serait donc quelque chose qui n'est pas idéal. Parce que le Rambam, dans ses lois sur le Mashiach, ne nous parle pas du Mashiach ben Yosef. Vous savez pourquoi? Parce que le Rambam, dans ses halakhot, ne parle que de ce qui est obligatoire. Or, Mashiach ben Yosef n'est pas obligatoire, puisque Mashiach ben David peut faire les deux. Faire les deux rôles. Dans les faits, on a eu besoin de Mashiach ben Yosef. Le seul problème, c'est que nous dit le Talmud, dans le traité de Megillah, que... ou Ta'anit, je m'en rappelle plus. Nous dit le Talmud, en tout cas, que Mashiach ben Yosef va mourir. Va mourir et va être tué par Armilus Romulus Aracha. D'après donc le Talmud, il y a un moment donné où le sionisme laïque va mourir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Avec le post-sionisme dévergondé, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais d'après l'enseignement de la Kabbalah, eh bien, si on prie pour qu'il ne meure pas, alors il peut s'en sortir, ma chère Ben Yosef. Nous dit le Harizal qu'il faut prier, quand on dit « C'est David Mehera le Torah Tachin », il faut prier pour que ma chère Ben Yosef ne se fasse pas tuer par Romulus Saracha. Juste pour l'anecdote, Romulus Saracha, ça fait évidemment référence à Romulus, Rome, qui serait l'ennemi qui voudrait détruire cette volonté de retrouver une identité nationale. Mais quand on connaît un tout petit peu l'histoire et qu'on regarde ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y avait ma chère Ben Yosef dans toute sa splendeur en tant que le Yishuv Hayashan, c'est-à-dire tous ces... c'est pas encore l'État d'Israël, mais le Yishuv en État d'Israël, 400 000 personnes, qui étaient en train de reconstruire une ville laïque. Et il y a eu un Romulus, un Rommel, Racha, qui était en marche pour détruire ma chère Ben Yosef. Rommel, à la tête de la Africa Corps, était en marche pour détruire le Yishuv. Et il a été, Baruch HaShem, arrêté à El Alamein, et donc n'est pas arrivé à détruire ma chère Ben Yosef. Donc, en gros, quand on dit « Vechiseh David avdecha me'era letocha tachin », eh bien, on parle de Mashiach Ben Yosef. Baruch Ata HaShem, bonnet Yerushalayim. Bonnet Yerushalayim, c'est du présent continu. Et oui, quand le corona sera terminé et qu'enfin on reprendra une vie complètement normale, eh bien on se retrouvera dans les embouteillages. Moi, moins que vous parce que je suis en vélo, mais quand même. Et je voudrais vous rappeler ici les paroles du Rav Tzvi Yehuda. Lorsqu'il arrivait à Jérusalem et que les rues étaient embouteillées, eh bien, il était toujours avec cette remarque pleine de joie et de simcha par rapport à tous ces automobilistes qui sont extrêmement énervés quand ils voient les embouteillages. Rav Tzvi Yehuda pleurait de joie en disant qu'il y a marqué dans le Megillah de Eicha, dans les lamentations de Jérémie, à la suite de la destruction de Jérusalem, d'Arche Tzion Avelot en Ba'ish. Les chemins qui mènent à Jérusalem sont endeuillés, il n'y a plus personne. Et aujourd'hui, on est pris dans les embouteillages tellement il y a de monde à Jérusalem. Et ça, c'est extraordinaire. Bonnet Yerushalayim. Alors, on a construit Jérusalem, mais on ne peut pas se satisfaire simplement de Jérusalem. Eh non, il faut également l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est quoi? C'est Mashiach. Mashiach ben David. Et donc, pour pouvoir amener le Mashiach ben David, il faut d'abord être capable de faire preuve de patience. C'est pour ça que cette bracha qui suit commence en nous disant que le Mashiach ben David ou Tzemach et Tzemach David Avdecha. Tzemach, c'est un des noms du Mashiach tel qu'il est mentionné dans le Talmud. Tzemach, c'est une dimension végétale. Pourquoi? Pour nous dire que de la même façon que la plante, elle pousse Léat, 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 Léat. Eh bien, le Mashiach également, c'est une évolution lente. Pourquoi lente? Alpi Ateva. Vous allez me dire, mais non, la Gemara nous dit que le Mashiach, il peut venir comme ça, pouf. Nachon. Nachon, il peut venir comme ça, pouf. Ou il peut venir Alpi Derech Ateva. Ou alors il peut venir d'après les lois naturelles. Mais on m'avait dit que c'était pourtant quelqu'un qui viendrait à un pauvre sur un âne blanc, pas blanc. Oui, mais on t'a dit également qu'il viendrait sur des nuées célestes. Est-ce qu'il est Ani Rochev Al-Khamor ou est-ce qu'il vient à l'Anane Shemaya? Eh bien, c'est où on mérite ou on mérite pas. Dans tous les cas, il vient. Mais est-ce qu'il vient de manière naturelle ou est-ce qu'il vient de manière complètement miraculeuse? La réponse que donne la Tfila depuis 2000 ans de Tfila, c'est qu'il vient de manière naturelle. Léat, Léat. Et Tzemach David Avder. Vous savez quel est le grand problème d'une plante? c'est le double tranchant de Tzemach. Parce que quand il y a quelque chose qui arrive, pouf, ben tout le monde le voit. Tout le monde est en mode, waouh, c'était pas là et maintenant c'est là. Mais quel est le problème pour celui qui est tout le temps auprès de ses enfants? Est-ce qu'il les voit grandir? Ben non. Pour lui, sa fille qui vient de faire bat mitzvah, je parle de lui à la troisième personne, eh bien, il la voit toujours comme étant cette jeune fille de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans. Quand il regarde au quotidien sa fille grandir, il ne la voit pas grandir. Et son grand problème à lui, dont on parle à la troisième personne, c'est que des fois, il la considère encore comme une jeune fille de 7 ans, alors qu'elle a 12 ans, et qu'elle n'a pas forcément les mêmes attentes, qu'elle n'attend pas de toi, le papa, la même chose. Qu'il faut que tu lui laisses un petit peu plus d'espace. Parce que c'est une grande fille maintenant. Mais toi, tu l'as pas vu grandir. Pourquoi? Parce que tu étais au quotidien avec elle. Alors que lorsque les grands-parents arrivent de Khoutsa Aretz, ils la voient une fois, allez, on va dire, deux, trois fois maximum par an. Ils disent, waouh, comme t'as grandi, incroyable! Et c'est pas un mensonge. Parce qu'eux, ils sont de temps en temps comme ça, donc ils ne la voient pas grandir tout le temps. Le problème des Juifs, lorsqu'ils parlent du Mashiach, il y a ceux qui n'ont pas utilisé la tfila depuis 2000 ans, et il y a ceux qui prient depuis 2000 ans pour la venue du Mashiach. Ceux qui n'ont pas prié, eh ben, ils sont comme mes parents qui voient ma fille de temps en temps, que quand ils la revoient tout d'un coup, paf, c'est évident, comme le nez au milieu de la figure. Mais pour celui qui a prié tout le temps, Mashiach, 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 tous les jours, il ne le voit pas grandir, ce Mashiach. Et donc, lorsqu'il regarde dehors autour de lui et qu'il voit flotter l'État d'Israël, le drapeau, l'armée, la Jérusalem qui fleurit, le pays extraordinaire, il dit pas ce Mashiach. Il dit, ouais, bah, c'est ça, on a fait une maison, puis on a fait une deuxième maison. Ah, rien d'extraordinaire, un Bezra Souché, Mashiach. Tu ne vois pas le Mashiach qui est en train de grandir, là. Et pourtant, c'est la halakha. Et Tzemach. David Avdecha. Et Tzemach David Avdecha. Donc on a dit que c'était en mode Léat Léat. Alors on demande quand même. Mehera Tatsmiach. Bon d'accord. Mais on sait qu'il faut que ça prenne du temps. C'est d'air. Mais on aimerait bien quand même que ça soit Maher. Mehera Tatsmiach. Et une fois que on a dit cela, ben on peut comprendre quel est l'objectif. Ma Amatara. Chez la Mashiach. C'est quoi l'objectif du Mashiach? C'est pas chouette. Vekarno tarum biishuatecha. Mais c'est karno, c'est keren, a keren shelo. Mais c'est keren. Alors vous pouvez penser comme ça en mode grec, la corne d'abondance. C'est représenté dans l'époque. Et c'est à l'époque de laquelle nos sages vont écrire la tfila. La corne d'abondance. Ça, c'est Keren. Ça va amener, le Mashiach, ça va amener une abondance incroyable. Sauf que ça, c'est plus grec que juif. Dans le judaïsme, Keren, c'est ce qui nous permet de sonner la libération des esclaves. Bimshor, Keren Ayovel. C'est-à-dire que l'objectif du Mashiach, c'est d'avoir une véritable prise de conscience de liberté. Pourquoi faire? Le karno tarum, le harim, bishuatecha. Il faut être libre pour pouvoir véritablement accepter la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. A Yeshua shelcha. Sauf que là encore, eh bien, les amis, c'est à double tranchant. C'est un mérite, à double tranchant. Ben oui, c'est à double tranchant. C'est la Yeshua pour moi qui vient de lui, ou est-ce que c'est sa Yeshua à lui qui vient de moi? Mazeb Yeshua Techa. Comme on retrouve dans le verset, dans la bracha que Yaakov donne à Dan, où il y a marqué là-bas, l'Yeshua Techa qui vit Hashem. Ani mekave la Yeshua shelcha, ça veut dire quoi? Ma Yeshua qui vient de toi ou ta Yeshua? En vrai, en grammaire, Si on avait voulu dire « Ma Yeshua qui vient de toi », on aurait dit « Yeshua ti ». Mimcha. Il semblerait que Yeshua Techa, c'est la Yeshua de Dieu. En fait, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. Parce que Am Israël libre peut décider que Ribbono Shel Olam, c'est lui son patron. Et donc, c'est la Yeshua To. Mais grâce à cela, eh bien, Dieu peut nous donner Shefa Bracha. Dieu peut nous donner l'abondance. Et donc, ben c'est aussi Yeshua Ti. En d'autres termes, Vekarno Tarum Bishua Techa, c'est un win-win. Parce que la Geoula, telle qu'on la mène en ce moment, eh bien, c'est une Geoula où il y a une participation de l'homme au dévoilement divin. Par opposition aux autres Geoulotes. Nous dira le prophète Ishayahu. À propos de la Géoula de Pessah, on le sait bien qu'on a tout fait rapidement. Il fallait avoir les chaussures aux pieds, la ceinture et tout ça pour manger le korban de Pessah, parce qu'il fallait partir Bechipazon. Alors que, pour nous, dans notre génération, nous dit le prophète Ishayahu, je vous lis le verset au chapitre 52, verset 12, Ki lo bechipazon tetzeu, ubi menusa lo telechu. Cette fois-ci, ça ne sera pas rapide. Ce ne sera pas comme ça, allez, rapidement, hein. Léat, léat, et tu y participeras. Je vous dis ça à la veille de Yom HaAtzmaout. Eh oui, Shavua Abba, la semaine prochaine, c'est Yom HaAtzmaout. Qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus grand? Yom HaAtzmaout ou Pessah? Alors, la réponse est évidente. La réponse est évidente. Yom HaAtzmaout est beaucoup plus important que Pessah. Bien sûr. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de gens qui vont faire un barbecue que de gens qui ont mangé des matzot à Pessah. Mais au-delà de ça, mathématiquement parlant, la fête de Pessah, c'est la sortie d'exil d'un pays après 200 ans d'exil, 210 ans. Yom HaAtzmaout, c'est la sortie d'exil de 100 pays après 2000 ans. Alors, qu'est-ce qui est plus grand? Barou. Mais ce ne sont pas que des chiffres mathématiques. Comprenons bien deux secondes. Les Moadim, on a déjà expliqué que c'était des moments de rencontre avec Dieu. Moed, ça veut dire rencontre. La première des Moadim, la première dans la liste de Parashat Emor, c'est Shabbat. Alors Shabbat, ça symbolise la création du monde, vous le savez. Et donc, eh bien, qui a fait la création du monde? Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un l'a aidé? Non, tout seul, il a bossé. Donc, pour acquérir Kdushat HaShabbat, moi, je me dois de cesser d'être quelque part. De cesser tout ce qui fait de moi celui qui construit ce monde. Parce que je me réfère à un moment où je n'étais pas là pour construire. Où c'était juste Dieu. Donc, Shabbat, ani shovet mikol melacha. Si je veux intégrer cette Kdusha-là, ben je dois keilu m'effacer parce que je n'étais pas là au moment de la création du monde. C'est bien, mais c'est pas bien. S'effacer complètement, pourquoi Dieu m'a créé? S'il voulait que je sois pas là, il n'avait qu'à pas prêt. Et donc, on évolue dans la Kedusha. Et on arrive à Kedushat Yom Tov. Kedushat Yom Tov, c'est tous les Yom Tov sont en souvenir de la sortie d'Égypte. Et donc, tous les Yom Tov se réfèrent dans leur halakhot à la sortie d'Égypte. Eh bien, dans la Kedushat Yom Tov, pour acquérir cette Kedusha, est-ce que je dois complètement cesser tous travaux? Non. J'ai le droit de faire Meleret Ochel Nefesh. J'ai le droit de faire un petit truc qui est en fait la base de mon existence. Lama. Eh bien, parce que pour la sortie d'Égypte, qui a fait le boulot? Dieu, me direz-vous. Oui, mais pas à 100%. À 90%. Moi, j'ai bossé quand même 10%. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis sorti d'Égypte. J'ai quand même participé. Un minimum. J'ai quand même participé. Après, on va évoluer encore plus dans la Kedusha. À un moment donné, où c'est moi qui ai fait le miracle, Médio aussi, mais il s'est caché. Mais c'est moi, mais il s'est caché. Il s'est caché parce que c'est l'église, l'exil. On arrive à Pourim. Donc à Pourim, est-ce que je dois m'effacer pour acquérir la Kedusha de Pourim? Non, j'ai le droit de faire comme Melacha. Mais d'un côté, je dois boire parce que je ne suis pas vraiment en pleine possession de mes moyens à Pourim. Je suis en exil. Et c'est la raison pour laquelle j'ai le droit de faire les Melachot, sauf deux. Je n'ai pas le droit de construire de maison à Pourim et je n'ai pas le droit de planter des arbres à Pourim. C'est un miracle de Chutz Laaretz. Tu ne vas quand même pas construire une maison pour symboliser l'éternité de Chutz Laaretz. Et puis enfin, j'arrive à Hanouka. Ah, Hanouka, Hanouka folie. Hanouka, qui a fait le miracle de Hanouka? Eh bien, évidemment, nous. La guerre contre les Grecs, c'est nous. La victoire des Hashmonaïm, le retour de l'indépendance, c'est nous. Donc à 90%, c'est nous qui avons bossé. Ah ben, la Kadosh Baruch Hu s'est quand même laissé un petit 10%. Il a fait le miracle de la petite jeune huile. Résultat des courses, eh bien, à Hanouka, j'ai le droit de faire toutes les melachot. Aval, on a pris l'habitude, c'est marqué dans la halakha, qu'on a l'habitude, pendant les 30 minutes où on regarde les bougies, de ne pas faire de travail. Se rappeler. Fait mal. Et enfin, arrive une fête où le dévoilement divin a été amené à 100% par Dieu et à 100% également par nous. Vezdei Yom HaAtzmaout. Yom HaAtzmaout, c'est le moment où je n'ai pas besoin de m'effacer pour ressentir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. J'ai bossé bad bevad, main dans la main, avec Dieu, à 100%. Et donc, quand la melachot mutarot beyom ha'atzmaut, et a fortiori, c'est en faisant toutes ces melachot que tu arrives à retrouver cette kedusha-là incroyable. Tu vas faire ton barbecue, tu vas faire les feux d'artifice. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer cette année en mode corona, mais tu vas tout faire pour faire de cette journée-là une journée encore plus de dévoilement. Il y a véritablement une osmose. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve ici. Vekarno tarum bishuatecha. Kam shelcha, vekam sheli. Kilishuatra, kivino, vetsipino, kolayom. Ou alors, l'Ishua Tra qui vient nous coller, ou Metsapim le Yeshua. Tsipinu ve. Tout d'abord. Qui vient nous ve Tsipinu, ou Tsipinu ve Kivinu. Tout d'abord. Mazé. L'Ishua Tra qui vient nous coller. Ou, comme on a dit, je dis, l'Ishua Tra qui vient nous coller, ou Metsapim le Yeshua. Tout d'abord. Mazé. L'une des choses qu'on va te demander, quand tu vas arriver là-haut, c'est Aïm Tzipita l'Yeshua. Mais c'est Aïm Tzipita l'Yeshua. Est-ce que tu as attendu l'Yeshua? Alors tu vas dire, bah oui, oui, moi j'ai attendu l'Yeshua, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aïm Tzipita l'Yeshua, ce n'est pas seulement est-ce que tu as attendu passivement. C'est est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait faire pour que la Yeshua, elle arrive. Oui, mesdames. La halakha de Tzipita le Yeshua, c'est ce qu'on va te demander quand tu arriveras là-haut. C'est est-ce que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir? On ne demande pas de faire des choses que tu ne peux pas faire. Mais pour amener Tzipita le Yeshua. Il y avait Rabbi Menaché ben Israël. Rabbi Menaché ben Israël, parmi les grands maîtres d'Amsterdam, Rabbi Menaché ben Israël, il va lancer tous les pourparlers pour que les Juifs puissent revenir habiter, pas, il n'est pas le seul, hein, en Angleterre. Parce qu'il a lu dans le livre de Ishaïaou que la Géoula, elle viendra quand la parole de Dieu ira jusqu'aux Iim Arichokim, jusqu'aux îles lointaines. Il dit, bah, les îles lointaines, c'est l'Angleterre. Donc moi, je veux aider à réaliser ça. Bon, chacun a son délire. Moi, je veux aider à réaliser l'alia, à faire l'alia aux gens. Moi, je veux réaliser, aider à réaliser le comment on dit, l'égalité sociale. Machin. Chacun prendra là où c'est son truc. Mais quand on te demandera à Imtzipita le Yeshua, c'est pas est-ce que tu es resté assis à rien faire, mais c'est est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait faire à ton niveau pour amener cette Yeshua. Alors, mesdames, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bah, ça veut dire quelque chose de très simple. Est-ce que moi, bah, je fais ce qu'il faut? Par exemple, je transmets ce que j'apprends. Mes enfants, mes petits-enfants. Non, mais mes enfants, mes petits-enfants, ils comprennent mieux que moi, ils étudient tout le temps. Non, ils comprennent pas mieux que toi. Ils ont besoin de ta compréhension également. Donc oui, vous avez l'obligation de transmettre ce que vous apprenez. C'est votre manière, et peut-être encore d'autres, de l'etzapot l'ishwa. Et c'est ce qu'on te dit ici. Qui vit nous, je reprends la phrase, l'ishwatra qui vit nous kolayom umtsapim l'ishwa. Baruch ata Hashem matzmiach keren Yeshua. Ça y est, on a demandé en fait tout ce qu'on avait besoin de demander. Je ne sais pas si vous imaginez, mais on a tout demandé. Ça y est, j'ai plus rien besoin. Parce qu'en admettant que Dieu va me donner tout ce que j'ai demandé, regardez qu'est-ce que j'ai demandé. J'ai demandé qu'il me donne la chokhma. Après avoir demandé la chokhma, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé qu'il me ramène vers lui. Ensuite, j'ai demandé qu'il m'enlève mes fautes. Ensuite, j'ai demandé qu'il m'enlève les tourments que je peux avoir avec l'égoïme. Après, j'ai demandé la réfoua. Après, j'ai demandé la parnassa. Après, j'ai demandé la geoula, la d'Israël. Après, j'ai demandé le mishpat, la justice. Après, j'ai demandé que tous les ennemis du peuple juif disparaissent. Après, j'ai demandé que les tzadikim reviennent pour nous diriger, soit redirigés par des tzadikim comme à l'époque. Et je lui ai demandé la construction de Jérusalem. Je lui ai demandé Mashiach ben David. Zéro. Plus besoin de rien du tout. Plus besoin de rien du tout. Donc j'aurais dû arrêter les brachot des demandes, là maintenant, et passer à l'étape des remerciements. Directement après Matzmiach Keren Yeshua. Et pourtant, nous avons encore une bracha, Birkat Shomea Tefila, qui est encore une bracha de demande. Et la question est de savoir, mais pourquoi, diable, je dois encore demander quelque chose alors que j'ai plus rien à demander? Eh bien, pour savoir pourquoi je dois faire ça, eh bien ça, on verra la semaine prochaine. Shabbat Shalom, Vechag Sameach. Je donnerai un cours sur Yom HaAtzmaout. J'en donne un ce soir, donc je vais vous envoyer le lien ceux qui veulent regarder, et j'en donnerai un le jour de Yom HaAtzmaout également, donc voilà, donc celles qui voudront se connecter, je vous enverrai la publicité plus tard. Voilà, Shabbat Shalom.